Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro. Au sommaire de cette édition du vendredi 21 juin 2024. Au Mali, 11 responsables de la plateforme de la déclaration commune du 31 mars ont été arrêtés jeudi soir lors d'une réunion privée au domicile d'un ancien ministre. Les armées africaines et américaines se concertent au Botswana la semaine prochaine pour discuter des défis du continent en matière de sécurité et de stabilité.
L'objectif est de relever les défis urgents en matière de sécurité sur le continent africain et de trouver des moyens de travailler ensemble pour une Afrique plus sûre.
Les enjeux de cette rencontre à suivre dans la partie magazine. Au Kenya, appel à une grève nationale mardi prochain contre le projet de nouvelles taxes. En Namibie, la justice valide une loi criminalisant les relations homosexuelles. L'armée israélienne intensifie ses bombardements dans la bande de Gaza, alors que les échanges de tirs avec le Hezbollah font craindre une extension de la guerre. Ne manquez pas notre page sport, ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Les juges de la Cour pénale internationale ont rendu public aujourd'hui un mandat d'arrêt contre l'un des principaux chefs djihadistes du Sahel pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Yad Ag Gali, dont l'âge n'est pas précisé, est l'un des plus importants djihadistes maliens et sahéliens et l'un des principaux acteurs de la crise sécuritaire dans laquelle est plongé le Sahel depuis 2012. Les crimes visés sont notamment des meurtres, y compris de soldats, des viols, de l'esclavage sexuel, de la torture, ainsi que des attaques intentionnellement dirigées contre des bâtiments consacrés à la religion et à des monuments historiques. Au Mali même, 11 opposants ont été arrêtés alors qu'ils se réunissaient à Bamako après avoir appelé à un retour des civils au pouvoir. Alexandrine Olugnon.
Leur interpellation est survenue lors d'une rencontre privée au domicile d'un responsable de leur coalition. Parmi les personnes arrêtées figurent des présidents de partis et mouvements politiques, signataires d'une déclaration publiée le 31 mars dernier, appelant la junte à rendre le pouvoir aux civils. Ils ont été entendus sur une réunion clandestine alors que les partis politiques sont interdits d'activité au Mali. D'après une source judiciaire, ils doivent être présentés au procureur aujourd'hui. Les signataires de la déclaration du 31 mars avaient dénoncé le vide juridique et institutionnel laissé après l'expiration du délai prévu pour le départ des militaires et avaient réclamé la tenue d'une élection présidentielle dans les meilleurs délais. Leur coalition dénonce une énième violation des libertés fondamentales et condamne ces arrestations et exige leur libération sans délai.
Les fortes précipitations qui s'abattent sur le Niger et les graves inondations qu'elles engendrent ont déjà fait 21 morts et près de 6 000 sinistrés depuis fin mai, alors que la saison des pluies vient juste de commencer. La région de Maradi, dans le centre-sud, est la plus touchée, avec 14 décès et 2 444 sinistrés, selon les autorités. La capitale Niamey, ses 2 millions d'habitants habituellement frappés par des inondations meurtrières, est pour le moment épargnée. Un manifestant a été tué par balle jeudi soir dans la capitale kényane, Nairobi, en marge de manifestations contre un projet de nouvelle taxe, alors qu'un appel à la grève générale a été lancé pour mardi. Dili Diko.
Le mouvement, baptisé Occupy Parliament, Occuper le Parlement, lancé sur les réseaux sociaux, mobilise fortement la jeunesse qui exige le retrait du projet de loi de finances du gouvernement. Mardi 25 juin, Occupy Parliament et Total Shutdown Kenya, fermeture générale, pouvait-on lire sur une affiche largement partagée en ligne et appelant à la grève générale. Jeudi, les manifestations ont été ponctuées de heurts isolées avec les forces de l'ordre qui ont usé de gaz lacrymogène et de canons à eau. Au moins 200 personnes ont été blessées et la Croix-Rouge kényane affirme que 8 sont dans un état grave. Un manifestant a été tué par balle alors qu'il tentait de fuir la police hier soir, a indiqué un porte-parole d'Amnesty, Mathias Kinyoda, ajoutant que la personne qui a tiré était en civil mais accompagnait la police. L'autorité indépendante chargée de la surveillance de la police a annoncé aujourd'hui avoir ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de la mort de cet homme.
Le président du Malawi, Lazarus Chakwera, a nommé Michael Biswik Uzi au poste de vice-président du pays. Il remplace donc le vice-président Solios Chilima, décédé dans un accident d'avion le 10 juin dernier, avec huit autres hauts fonctionnaires malawites. Michael Uzi était auparavant ministre des Ressources naturelles et du changement climatique et était un proche allié de Chilima, dont il a été le colistier. En Namibie, la loi héritée de la période coloniale criminalisant les relations homosexuelles est invalidée par la haute cour de ce pays d'Afrique australe. Michel Joseph.
Dans son jugement, le délit de sodomie est déclaré anticonstitutionnel et invalide, a souligné la haute cour namibienne à Windhoek. Elle a aussi jugé contraire à la Constitution les délits de sexe contre nature. Elle avait été saisie par un militant namibien LGBTQ+. Leur décision peut faire l'objet d'un recours en appel devant la Cour suprême. En mai 2023, la Cour suprême namibienne s'est prononcée en faveur d'une reconnaissance de certaines unions entre personnes de même sexe contractées à l'étranger. Le Parlement avait aussitôt adopté une loi interdisant le mariage entre personnes de même sexe en attente de ratification par le président. Jusque-là, seuls quelques États africains ont dépénalisé les relations homosexuelles et l'Afrique du Sud est le seul pays du continent où le mariage homosexuel est légal depuis 2006.
Le président tunisien Kais Saied a limogé Brahim Chaibi, le ministre des Affaires religieuses, à la suite de nombreuses critiques suscitées par la mort de dizaines de Tunisiens participant au pèlerinage du Hajj, a déclaré la présidence ce vendredi. Au moins 49 Tunisiens sont décédés en raison de la chaleur extrême qui règne en Arabie Saoudite. Depuis une semaine, les familles tunisiennes sont toujours à la recherche de plusieurs personnes disparues.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Cour suprême des États-Unis a affirmé aujourd'hui que les lois permettant le désarmement temporaire des personnes présentant une menace crédible pour la sécurité physique d'autrui, comme les auteurs de violences conjugales, étaient constitutionnelles, clarifiant sa récente jurisprudence sur le port d'armes. Le président démocrate Joe Biden a salué l'arrêt de la Cour suprême dans un communiqué soulignant qu'aucune victime de violences conjugales ne devrait avoir à s'inquiéter que l'auteur de ces violences puisse se procurer une arme. L'armée israélienne a bombardé la bande de Gaza ce vendredi. Les échanges de tirs avec le Hezbollah à la frontière nord d'Israël avec le Liban et les menaces brandies par les deux camps font craindre une extension de la guerre. Yacouba Ouedraogo.
Des bombardements d'Israéliens ont visé la bande de Gaza assiégée. Ce conflit a provoqué une flambée de violence à la frontière israélo-libanaise où les échanges de tirs entre l'armée et le Hezbollah libanais, allié du Hamas, se sont intensifiés. Pendant la nuit, l'armée a dit avoir intercepté une cible aérienne lancée depuis le Liban et des médias ont fait état de frappe israélienne sur le sud du Liban. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a réitéré l'engagement des États-Unis pour la sécurité d'Israël, selon son porte-parole Matthew Miller. M. Blinken a aussi mentionné l'importance d'éviter une nouvelle escalade au Liban pour permettre aux familles israéliennes et libanaises déplacées par les échanges de tirs de rentrer chez elles. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé qu'Israël mène une guerre pour son existence et a besoin des armes des États-Unis, son allié historique, après avoir déploré mardi des retards dans l'aide militaire américaine.
L'Organisation mondiale de la santé a averti ce vendredi que la chaleur écrasante dans la bande de Gaza pourrait aggraver la situation sanitaire des Palestiniens, contraints de fuir les bombardements israéliens et les combats entre Saal et le Hamas. D'après l'OMS, la chaleur et les mauvaises conditions sanitaires qui en résultent peuvent déclencher des maladies telles que le choléra, la diarrhée, la dysenterie ou l'hépatite. Les 27 pays de l'Union européenne ont confirmé l'ouverture de négociations d'adhésion avec l'Ukraine et la Moldavie, a annoncé aujourd'hui la présidence belge du Conseil de l'Union européenne. Les 27 vont d'abord ouvrir formellement les discussions avec l'Ukraine mardi après-midi, puis avec la Moldavie. L'Union européenne a accordé en juin 2022 à l'Ukraine le statut de candidat à l'adhésion dans un geste hautement symbolique, quelques mois après le début de la guerre déclenchée par Moscou, ainsi qu'à la Moldavie voisine. Des drones d'attaque ukrainiens à longue portée ont frappé 4 raffineries de pétrole russes, ainsi que des stations radars et d'autres cibles militaires en Russie lors d'une offensive tôt ce vendredi, a déclaré l'armée ukrainienne. L'armée affirme avoir également ciblé des stations radars et des centres de renseignement électroniques dans la région de Bryansk en Crimée occupée. Le communiqué ne précise pas la nature exacte de ces sites. Et pour finir, les restrictions des droits des femmes continuent de bloquer la réintégration de l'Afghanistan dans la communauté internationale, a souligné une haute responsable de l'ONU ce vendredi. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Nathalie Barge.
Le programme Palmier Ivoire a été lancé à Yamoussoukro hier dans le cadre du projet des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation économique créé en 2022. 30 000 palmistes doivent être formés aux bonnes pratiques et moyens de générer des revenus additionnels. 1 500 jeunes ont déjà été formés par des experts ivoiriens et malaisiens pendant 18 mois. Le gouvernement ghanéen a signé un accord de 12 milliards de dollars avec des entreprises locales et étrangères pour la première phase d'un projet de hub pétrolier qui sera développé en trois phases sur une dizaine d'années pour un coût global de 60 milliards de dollars. La première phase porte sur la construction d'une raffinerie de 300 000 barils par jour, d'une usine pétrochimique de 90 000 barils, d'une installation de stockage et d'une plateforme portuaire. Au Togo, les consommateurs ont jusqu'à dimanche pour contribuer à l'enquête de satisfaction client 2024 de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes sur les services télécoms, indique Togo First. L'opération lancée le 3 juin vise à évaluer la qualité des services offerts par les opérateurs de services fixes, mobiles et postaux, ainsi que par l'ARCEP elle-même.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Paulo Duarte n'est plus le sélectionneur du Togo.
Oui, le technicien portugais a démissionné de son poste, selon l'annonce faite par la Fédération togolaise de football dans un communiqué. Paulo Duarte était à la tête des éperviers du Togo depuis août 2021. Cette décision intervient au lendemain de la défaite du Togo face à la République démocratique du Congo, 1-0 le 9 juin à Kinshasa. Lors de la quatrième journée des qualifications pour la Coupe du Monde, le 5 juin, le Togo avait été tenu en échec à Lomé par le Soudan du Sud, un but partout, pour le compte de la troisième journée de ses qualifications.
Suite ce vendredi des matchs de la deuxième journée de l'Euro 2024.
Gros choc attendu entre la France de Kylian Mbappé, victime d'une fracture au nez, et les Pays-Bas à Leipzig un peu plus tôt. L'Ukraine s'est relancée dans le groupe E en battant la Slovaquie 2-1 au premier match de la journée à Düsseldorf. La qualification reste très ouverte dans le groupe E puisque l'Ukraine est revenue à 3 points à hauteur de la Slovaquie et de la Roumanie qui affrontent la Belgique demain samedi. Hier, l'Espagne a obtenu son ticket en battant l'Italie 1-0 et rejoint l'Allemagne au tour suivant.
L'Argentine domine le Canada et se lance idéalement dans la Copa América qui se joue ici aux États-Unis.
Tout le stade n'avait Dieu que pour lui et c'est bien Lionel Messi qui a servi deux passes décisives pour permettre à l'Argentine de battre le Canada 2-0 en ouverture à Atlanta de la Copa América. Les champions du monde en titre lancent ainsi de manière idéale leur été américain. Team USA entre en compétition ce dimanche face à la Bolivie. Comme en 2016, pour la Copa du Centenaire, la compétition se déroule avec un format élargi à 16 équipes, les 10 concurrents sud-américains habituels de la CONMEBOL étant rejoints par les 6 membres de la CONCACAF, l'Amérique du Nord, Centrale et Caraïbes. Cette Copa et ses 32 rencontres font figure d'apéritif avant la Coupe du Monde 2026 et ses 104 matchs, dont 78 aux États-Unis. 8 stades font partie du dispositif pour les deux compétitions, dont le Hard Rock Stadium de Miami et le MetLife Stadium de New York, futur entre de la finale du Mondial.
Basketball ici en NBA, JJ Redick va être nommé entraîneur des Lakers.
L'ancien joueur devenu consultant s'est mis d'accord avec les Los Angeles Lakers pour devenir le nouvel entraîneur de la franchise. JJ Redick, 39 ans, proche de LeBron James, a rencontré les dirigeants des Lakers le week-end passé et s'est vu offrir le poste, annonce plusieurs médias, dont ESPN, où il exerce comme consultant et des athletics. JJ Redick compte 15 ans de carrière NBA de 2006 à 2021, mais aucune expérience d'entraîneur. Consultant sur ESPN depuis 2021, il a lancé cette année un podcast avec LeBron James, star des Lakers depuis 2018, dont l'avenir n'est pas encore tranché. Les Lakers ont perdu cette saison au premier tour des playoffs face à Denver avant de licencier leur entraîneur Darvin Ham et tout son staff au mois de mai.
Page des sports VOA Afrique signée Yacouba Ouedraogo. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Les chefs de la défense de 30 pays africains se réuniront au Botswana la semaine prochaine pour une conférence militaire de 2 jours afin de discuter des défis du continent en matière de sécurité et de stabilité. La réunion organisée par le commandement américain pour l'Afrique ou AFRICOM sera la première à se tenir en Afrique depuis la conférence inaugurale de 2017. Depuis Gaborone, Mkondissi Doubé fait le point, le récit avec Alexandrine Ollognon.
L'ambassade des États-Unis à Gaborone a publié un communiqué indiquant que les États-Unis vont co-organiser la semaine prochaine au Botswana une conférence réunissant de hauts responsables de la défense de toute l'Afrique. Les orateurs principaux et les panélistes comprendront des civils et militaires, selon le capitaine de corvette Bobby Dixon, porte-parole du commandement des États-Unis pour l'Afrique, AFRICOM.
The aim to tackle the pressing security challenges on the African continent.
L'objectif est de relever les défis urgents en matière de sécurité sur le continent africain et de trouver des moyens de travailler ensemble pour une Afrique plus sûre. De la lutte contre le terrorisme aux cybermenaces, en passant par les missions de maintien de la paix, cette conférence abordera tous les sujets. C'est un pas important vers une approche unifiée de la sauvegarde du continent africain.
AFRICOM affirme que la réunion va s'appuyer sur le succès des conférences précédentes. La conférence de l'année dernière, qui s'est tenue à Rome, en Italie, a attiré le plus grand nombre de participants, soit 43 pays. Elle a été la plus importante de l'histoire de l'Afrique, selon le politologue Jackie Siliers, de l'Institut d'études de sécurité de Pretoria.
Il est évident que l'Afrique est confrontée à une série de défis. Il n'est pas toujours évident que le modèle présenté par les États-Unis soit adapté à l'Afrique. Ces dernières années, nous avons assisté à divers coups d'État en Afrique, parfois exécutés par des forces africaines formées aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France. Il est également évident qu'un certain nombre de missions de maintien de la paix de l'ONU, telles que celles menées en République démocratique du Congo et au Mali, se retirent d'Afrique.
Jackie Siliers ajoute qu'il est nécessaire que la conférence de Gaborone propose des solutions efficaces aux problèmes de sécurité du continent.
Sommes-nous en train d'assister au développement d'un nouveau modèle dans lequel les gouvernements africains envisagent des accords de sécurité alternatifs principalement avec d'autres pays africains? Et bien sûr, le rôle des entreprises privées s'accroît également. Ces événements surviennent à un moment où l'équilibre mondial des pouvoirs se modifie considérablement et l'Afrique est à nouveau une zone de concurrence. Il faut espérer que toutes ces réunions seront débattues lors de la prochaine conférence de Gaborone et que des véritables solutions seront proposées.
En mars, à l'issue de la réunion de son Conseil de paix et de sécurité, l'Union africaine s'est déclarée profondément préoccupée par le fléau des conflits sur le continent et leur impact sur le développement socio-économique.
Le nord du Cameroun est devenu un centre crucial pour le trafic d'armes légères et de munitions transfrontalières, exacerbant l'insécurité régionale. Les armes transitent par des routes illicites, alimentant Boko Haram et d'autres violences régionales. Quels facteurs spécifiques rendent cette région particulièrement propice au trafic transfrontalier d'armes et comment ces facteurs interagissent-ils avec les dynamiques régionales de sécurité et d'instabilité? Éric Manirakiza a joint Célestin Delanga, chargé de recherche au bureau de l'ISS, l'Institut d'études de sécurité pour l'Afrique de l'Ouest, le Sahel et le bassin du lac Tchad.
Remarquons dès l'entame que le Cameroun septentrional est une zone transfrontalière. Il partage ses frontières avec le Nigeria, le Tchad et la République centrafricaine. Or, il se trouve que dans ces pays, le trafic d'armes légères et de petit calibre est aigu en raison des situations d'insécurité qu'ils connaissent. Rappelons que le Nigeria est connu pour être un terreau fertile pour la fabrication d'armes artisanales. Ceci à cause des différentes insurrections auxquelles le pays a été confronté. Quant au Tchad, la succession des épisodes de conflits depuis les années 1970 les rébellions et les revendications ou alors les renversements de pouvoir politique. Sa proximité avec la Libye, le Soudan et le Niger, éprouvée par l'extrémisme violent, y ont occasionné une prolifération aiguë d'armes légères et de petit calibre. La RCA, quant à elle, connaît un long cycle d'instabilité sociopolitique. Entre 2004 et 2014, le pays a connu 3 sanglantes guerres civiles.
Quelle est la structure organisationnelle des réseaux de trafiquants d'armes opérant dans le nord du Cameroun et quelles sont les principales difficultés rencontrées par les forces de sécurité pour démanteler ces réseaux et contrer efficacement ce trafic?
Il s'agit fondamentalement des criminels ou des personnes qui ont des liaisons avec eux ou avec des groupes armés non étatiques. Ils usent des subterfuges, ils dissimulent souvent les armes dans les sacs de céréales, se faisant passer pour des commerçants. D'autres se déguisent en transporteurs de biens et de personnes, dissimulant les armes dans leurs véhicules. En outre, plusieurs nomades qui se déplacent entre et à l'intérieur des pays sont des passeurs d'armes. Les forces de défense et de sécurité font face à la porosité des frontières. Leur effectif ne leur permet pas de mailler efficacement le territoire, car, Eric, il s'agit de vastes espaces non occupés. Il manque aussi de matériel logistique pour faire efficacement face à ce phénomène d'envergure transnationale.
Quelles nouvelles méthodes innovantes pourraient être mises en place pour renforcer la coordination et l'efficacité des actions des forces de sécurité aux frontières afin de lutter contre le trafic d'armes dans cette région?
Eric, ces méthodes doivent être envisagées à 2 niveaux. Au niveau national, le Cameroun ainsi que les pays frontaliers devraient travailler au renforcement de leur politique nationale de lutte contre ce trafic en durcissant notamment les mesures de répression. Aussi, les comités de vigilance doivent être impliqués. Au plan régional, les forces de sécurité du Cameroun, du Nigeria, du Tchad et de la République centrafricaine postés aux frontières doivent avoir une plateforme de collaboration leur permettant de coordonner leurs actions en matière de lutte contre ce trafic.
Célestin Delanga, chargé de recherche au bureau de l'Institut d'études de sécurité pour l'Afrique de l'Ouest, le Sahel et le bassin du lac Tchad.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Bénin, le suicide est un sujet tabou, mais est devenu banal. Le cas le plus récent concerne un jeune homme qui a pris le soin d'informer sur Facebook son entourage avant de se suicider. Notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adandé, fait le point.
S'il y a un fait qui suscite incompréhension et stupéfaction, voire même la panique depuis quelques jours au Bénin, ce sont les nombreux cas de suicide. Pour beaucoup, cela devient inquiétant et devrait même interpeller les autorités béninoises. Cependant, cette banalisation de la vie n'a pas l'assentiment de certains jeunes.
Ces enfants sont un peu inconscients. Le fait de se tuer, de se suicider pour quelque chose qui n'est même pas important. D'abord, même un enfant même ne doit même pas se suicider. Car ce que la Bible, le Coran, tout ça nous a appris, c'est que le suicide d'abord c'est puni, d'abord par Dieu.
Moi je pense que les enfants là ils ont vraiment tort car ils n'ont pas eu de bonne éducation. Parce que en tant qu'enfant, lorsqu'on te refuse quelque chose, tu dois accepter. Te faire du mal ou bien t'empoisonner là, ce n'est pas du tout du bon.
Il y a les mauvais comportements des amis et il y a des gens même, leurs parents leur refusent des choses et ils font ça.
Pour les parents de ces jeunes qui sont à jamais partis sans dire un mot, c'est une épreuve douloureuse. Ils tentent de trouver une explication sur le départ d'un enfant qui a priori n'avait aucun problème.
Nous sommes dans un contexte économique où la vie sociale au Bénin est un peu chère. Les gens n'arrivent plus vraiment à joindre les deux bouts. Là, on peut dire que c'est ça qui favorise la recrudescence des cas de suicide.
C'est stupide d'agir de la sorte, mais c'est aussi le constat d'un manque de courage de ces genres de personnes qui décident de se ôter la vie.
Chez les jeunes aujourd'hui, c'est les problèmes relationnels et aussi l'aspect là qui est général, les difficultés financières.
Pour le sociologue Romain Adjadi, la fréquence des cas de suicide pose un véritable problème de société. Il souligne que beaucoup ont perdu l'espoir devant les difficultés de la vie.
Aujourd'hui, au Bénin, il y a des gens qui se suicident. Un, là, on peut dire c'est par hasard. Deux, là, ça devient inquiétant. Trois, c'est que c'est grave. Et là, il faut interroger l'environnement donc de celui qui s'est suicidé.
Pour le psychologue Arnold Emadé, la dépression se trouve au cœur de tous les cas de suicide.
Et il faudrait que nous retournions à cette éducation sociale qui fait appel à la solidarité, non à la solitude, qui fait appel à la communauté et non à l'individualiste, qui fait appel à la collectivité.
De son côté, le métaphysicien Raïm Yamoussou pense que les Béninois négligent trop souvent l'aspect spirituel de leur vie et que c'est ce qui explique la recrudescence des suicides.
Parce que le suicide, c'est pas forcément les difficultés matérielles. Même quand il y a difficultés matérielles, et c'est quand il y a manque d'encadrement spirituel que vous êtes envahi maintenant. Et ce que nous oublions, en tout état de crise, l'homme est ouvert au démon.
Il est évident qu'une approche holistique peut être importante, mais dans une société saine, la santé mentale et le soutien communautaire doivent rester parmi les priorités. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
À quelle fréquence riez-vous, bien que le rire soit l'une des réponses émotionnelles et physiques du corps à certaines stimulations? Des experts affirment qu'il joue un rôle important dans l'amélioration de la santé. De Lusaka en Zambie, Cathy Short nous propose ce reportage avec le récit de Jacques Aristide.
Tchibale Mukobe est psychologue au Serenity Wellness Center situé dans la capitale zambienne. L'établissement prodigue des conseils en matière de style de vie, de même que dans le domaine de la réadaptation en lien avec l'alcoolisme et la toxicomanie. Elle confie à la VOA que le rire offre de nombreux avantages pour la santé. Il diminue les hormones du stress, appelées cortisol, et augmente également les endorphines, qui sont des antidouleurs naturelles, réduisant ainsi les niveaux de tension et relaxant le corps.
Il contribue aussi à renforcer votre système immunitaire en augmentant la production d'anticorps qui aident à combattre certaines maladies. Ensuite, sur le plan psychologique, il aide à améliorer l'humeur au cas où vous ressentiriez des sentiments d'anxiété, de dépression, peut-être même de colère. Lorsque vous riez, croyez-moi, vous sentirez tellement mieux.
Au fil des années, des études médicales ont montré que le rire entraîne l'expansion des tissus à l'intérieur du cœur et augmente le flux d'oxygène dans le corps. Cependant, le rire n'est pas toujours synonyme de bonheur. Rachel Mukomwe-Sidat, thérapeute et directrice exécutive de Reveal to Heal, indique que le bonheur exprime la joie, le plaisir et le bien-être positif, tandis que le rire est une émotion qui peut être communiquée même quand quelqu'un n'est pas heureux.
Quand nous parlons de rire, n'importe qui peut rire à tout moment. Qu'il soit heureux ou non, il rira toujours. Il est tout à fait possible de dépeindre un faux style de vie. Si je reviens à la filière dans laquelle nous sommes en tant que thérapeute, j'ai vu des gens en public qui rient, qui peuvent sourire. Mais lorsque nous les recevons dans nos bureaux pour se parler, ils s'effondrent. Ils ne ressentent pas le bonheur.
L'humoriste Emmanuel Munzaka dit qu'il fait rire les gens sur la base de ses expériences de vie. Il ajoute que le rire l'a aidé à sortir de la dépression à plusieurs reprises.
Nous sommes les personnes les plus déprimées. Il nous faut tout simplement avoir du courage pour parler de ces moments de dépression que nous avons vécu dans la vie. Nous les transformons en blagues et faisons rire les gens qui pourront s'y identifier.
Lors d'un récent match de rugby, des habitants de Lusaka ont partagé leur avis à propos du rire.
J'aime rire. Oh ouais, j'aime rire. Tout d'abord, qui ne le fait pas? J'aime rire parce que rire est sain.
Quant à moi, j'ai défini les rires comme un lien social ou une activité sociale qui ouvre les conversations et renforce également les relations.
Qu'il s'agisse de partager une blague avec des amis ou de regarder une comédie avec des proches, le rire peut rapprocher les gens et créer des moments mémorables.
Le Monde Aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde Michel Joseph, Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.